Avant d'aller plus loin, je vous invite à prendre votre Bible, à aller dans le chapitre 15. On va lire quelques versets pour introduire ce matin et on va embarquer dans le vif du sujet. On est dans le chapitre 15, les versets 1. On va lire le verset 1 jusqu'à 11. Tous les 7 ans, tu feras relâche et voici comment tu observeras la relâche. Quand on aura publié la relâche en l'honneur de l'Éternel, tout créancier qui aura fait un prêt à son prochain se relâchera de son droit. Il ne pressera pas son prochain, son frère, pour le paiement de sa dette. Tu pourras presser l'étranger, mais tu te relâcheras de ton droit pour ce qui t'appartiendra chez ton frère. Toutefois, il n'y aura point d'indigent chez toi, car l'Éternel te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te fera posséder en héritage. Pourvu, et notez bien ici la condition, pourvu seulement que tu obéisses à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Le mot est très fort ici, c'est 2 fois le même verbe en hébreu pour dire vraiment un point marqué. On va répéter un verbe, on va dire, tu écoutes, si tu écoutes, tu écouteras l'Éternel, ton Dieu. On répète le même mot, on le redouble pour dire, si tu écoutes pleinement la voix de Dieu. Si tu es en obéissance sincère, et donc c'est intense ici le mode du verbe pour dire, je m'attends à de l'obéissance sincère sur ce que je vous dis ici. Et le Seigneur est donc, il met un ton de sérieux à la voix de l'Éternel ton Dieu en mettant soigneusement en pratique tous ces commandements que je te prescris. L'Éternel ton Dieu te bénira comme il te l'a dit, tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Tu domineras sur beaucoup de nations et elles ne domineront point sur toi. S'il y a chez toi quelqu'un indigent d'entre tes frères, dans l'une de tes portes, tu portes au pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'endurciras point ton cœur et tu ne te fermeras point ta main devant ton frère indigent. Et quand on parle le mot indigent, on parle d'une personne dans sa racine, une personne qui est dans le besoin. C'est ça l'idée d'être indigent, une personne dans le besoin. Mais tu ouvriras ta main et tu lui prêteras de quoi pourvoir à tes besoins. Garde-toi d'être assez méchant dans ton cœur pour dire, la 7e année, année de la relâche, approche. Garde-toi d'avoir un œil sans pitié pour ton frère. Il criera à l'Éternel contre toi. Et tu te chargeras d'un péché. Donne-lui et que ton cœur ne lui donne point à regret. Car à cause de cela, l'Éternel ton Dieu te bénira dans tous tes travaux et dans toutes tes entreprises. Et il aura toujours des indigents dans le pays. C'est pourquoi je te donne ce commandement, tu ouvriras ta main à ton frère, aux pauvres et à l'indigent dans ton pays. Prions le Seigneur. Seigneur, on vient de lire ta parole, on est reconnaissant. Et Seigneur, c'est un texte qu'on connaît peu, qu'on lit peut-être moins souvent dans l'Ancien Testament. Et pourtant, Seigneur, ce matin, je crois profondément que ta parole veut nous parler en profondeur. Tu veux nous apprendre des choses sur toi, sur ton cœur et sur mon cœur. Parle-nous ce matin. Éclaire nos pensées. Aide-nous à être toutes là, concentrés, malgré toutes les distractions pour lesquelles notre cœur peut être occupé, des inquiétudes de la dernière semaine, des choses qui s'en viennent, une situation qui me pèse ce matin. Père Céleste, je te demander de prendre ces situations, que nos cœurs sachent qu'on peut les déposer sur tes épaules. Et se reposer, l'âme, en toi. Qu'on n'a pas à porter toutes ces choses, Seigneur. Nos épaules ne peuvent les porter, mais tes épaules le peuvent. Et ce matin, on veut te confier ces inquiétudes, ces choses qui peuvent nous alourdir ce matin, l'écoute de ta parole, ces stress, ces peurs. On veut les mettre sur tes épaules, Seigneur, ce matin. Et te prier de nous rendre libres d'écouter ta parole et de recevoir ce que tu veux me dire ce matin. Autant ceux qui sont ici dans la salle, Seigneur, que ceux qui écoutent en direct à la maison, que ceux qui écoutent en différé, parle à nos cœurs. Nous te prions dans le nom de Jésus. Amen. Je souhaite la bienvenue à mon collègue, Adama Diko, que j'ai vu derrière. un des pasteurs à l'Assemblée chrétienne du Cap-de-la-Madeleine. Heureux que tu sois avec nous, frère. Et pour chacun d'entre vous aussi ce matin qui est en visite, c'est une joie. Et si on ne s'est pas encore rencontré, si vous voulez venir me voir, ça me ferait plaisir de faire connaissance. Souvent, j'ai un petit peu de rattrapage en revenant de l'été, de quelques-uns qui se sont ajoutés pendant les vacances. Ce matin, je vous partage un texte hors série. Dans deux semaines, on va commencer une nouvelle série dans le livre de Matthieu, dans les chapitres 8 à 10, au cours des prochaines semaines. Alors, vous allez voir ça affiché prochainement, dans deux semaines, une nouvelle série, alors qu'on va commencer l'année scolaire. Mais avant, je voulais vous partager d'un débordement de mon cœur, de ce que Dieu me parlait il y a quelques mois de cela. Ce matin, la prédication que je vous partage vient d'un temps avec le Seigneur au mois de mai. Dans le début de mai, j'étais en train de lire le livre de Deutéronome et ce texte m'a vraiment fait du bien. Et c'est un texte peu populaire, on ne lit pas souvent pas dans le livre de Deutéronome. Et surtout, on n'aime pas les lois en général, alors peu de gens passent du temps à lire des lois. Et des fois, ça nous intimide même de lire l'Ancien Testament, la partie du Pentateuque, parce qu'il y a beaucoup de lois. Et pourtant, j'ai la conviction profonde, chers frères et sœurs, qu'on passe à côté de bénédictions. Parce que la loi n'est pas que des lois. Elles sont lois de Dieu. Et lorsqu'on lit la loi de Dieu, on apprend sur Dieu. On apprend sur le cœur de Dieu. On apprend sur ses intentions paternelles à notre égard. On voit comment il réfléchit, comment il a à cœur notre communauté, comment il a à cœur les humains, la justice, la droiture, la protection des vulnérables. Lorsqu'on lit la loi, on voit un Dieu qui a un cœur immense plutôt que de voir des règles. Et ce matin, j'aimerais vous donner un exemple de cela en regardant un texte qui m'a bouleversé et qui m'a fait du bien dans Deutéronome, un texte qui montre vraiment le cœur de Dieu. Et je crois vraiment que si on saisit le cœur de Dieu, ce qu'on a de la misère à saisir comme humain, qu'on prend vraiment conscience de la grandeur de son cœur, de sa générosité, je crois vraiment que c'est de là que vient le débordement dans nos cœurs, d'un débordement de générosité. Trop souvent, comme chrétien, on nous apprend, un bon chrétien, voici ce que ça fait. C'est généreux. Voici ce qu'un bon chrétien fait. Et là, on essaie de se conformer au comportement du bon chrétien. Et ça, les amis, c'est de la religiosité. Souvent, ça cultive notre performance, l'apparence, la conformité extérieure. Mais ce que Dieu veut faire, c'est pas qu'on suive des règles avant tout. C'est qu'on soit tellement émerveillé de Dieu, qu'on soit tellement ébahi devant sa grandeur, la richesse de notre Dieu, son cœur pour nous, que devant l'abondance de ses bienfaits, il y a un débordement d'admiration pour Dieu. Et qu'à cause de ça, tout à coup, mon comportement envers les autres est imprégné du cœur de Dieu. Et quand c'est un débordement, ça se ressent. Quand c'est une tâche, ça se ressent. Quand c'est une obligation. Et ici, dans ce texte, on a un texte qui est tellement en contraste avec ce qu'on a autour de nous. Alors que dans notre vision, notre culture moderne, on est porté vers la protection, notez bien les mots ici, la protection, l'accumulation pour notre évidemment, notre sécurité, on est méfiant envers les autres et on calcule. Alors que Dieu, dans Deutéronome, ici, dans ces versets, on voit un Dieu qui remet une dette. On voit un Dieu qui donne. On voit un Dieu qui libère. On voit un Dieu qui ouvre la main. Une image que j'aimerais que vous reteniez ce matin. Un Dieu qui a la main ouverte envers les humains. Alors que nous, on a tendance naturellement dans notre protection à avoir la main fermée pour se protéger de l'abus des autres. Protéger parce qu'on a ressenti, on n'a que vécu dans notre passé peut-être, qu'on a profité de nous. Alors il faut se protéger. On a un Dieu ici ce matin qui a le cœur ouvert, la main ouverte, qui est généreux et même, j'oserais dire, débordant de générosité d'une manière qui nous déstabilise complètement. On a chanté ce matin sur la dette qui est effacée. On a chanté sur quelle grâce incomparable. Et quand on parle d'incomparable, c'est que c'est tellement démesuré que ça nous déstabilise. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse voir cela justement, cette déstabilisation dans le cœur de voir la générosité de Dieu. Je lisais récemment une histoire de générosité d'un paquet d'élèves en 2019 qui était dans une université en Atlanta et un grand millionnaire était invité pour, en fait pas millionnaire, milliardaire, était invité pour parler lors de leur graduation au mois de mai. Et cet homme-là a marqué cette graduation d'une manière incroyable, que peu de gens pourraient faire. Il a annoncé aux gradués à 396 élèves endettés jusqu'au cou qu'ils prenaient leurs dettes et les libéraient à l'instant même. 40 millions. Imaginez le sentiment. Ça fait 4 ans que tu es à l'université, tu gradues, tu as 100 000 piastres aux États-Unis, hein? Tu as 100 000 piastres US. Faites le calcul. Hein? C'est du gros bidou. C'est bien des années. C'est beaucoup de pression à travailler, peut-être dans un métier que tu as pris puis que tu n'as pas vraiment le goût, mais que tu vas le faire parce que tu as tellement une grosse dette que tu es là, en sortant de l'école. Et là, tu vas devoir travailler. Et là, quelqu'un vient et prend ta dette. Comme ça. Aucun mérite, aucun avertissement pour te préparer à ça. Et tout à coup, tu ne connais pas cette personne, elle part avec ta dette et tu peux recommencer à zéro. Je refais 4 autres années parce que je n'ai pas étudié dans le bon domaine. Ben, il était pas libre de décider ça, le monsieur ou la madame qui a étudié 4 ans et disait, hé, misère, ça va être long de travailler dans ce domaine-là, c'est plate. Mais là, tout à coup, il a la liberté de dire, hey, c'est pas mon domaine, j'étudie dans un autre domaine. Il n'y avait pas cette liberté-là auparavant. C'était pas possible avec la dette jusque-là. Mais tout à coup, il y a une liberté de choix. Il y a une liberté de décision qui est revenue, alors que là, quand tu es pris dans les dettes, vous savez ce qui arrive, hein? Là, tu es pris dans un enchaînement. Prisonnier. Et peut-être, je dis ça ce matin, puis il y en a qui le vivent présentement. D'être pris dans tes dettes ce matin. Peut-être c'est des dettes d'études, puis peut-être ça a été plus long que tu prévoyais, plus coûteux. Peut-être c'est des dettes pour la famille. Peut-être c'est des dettes de jeu ou des mauvaises décisions. Du plaisir immédiat, mais un manque de prévoyance. Il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles on peut avoir des dettes. Peut-être c'est à cause que tu as été pris avec la maladie, avec le cancer, pendant 2 ans de ta vie, et que là, tu ne peux plus travailler, pas bien assuré. Et là, la maladie ou une perte d'emploi pour laquelle tu n'as pas de contrôle. Puis là, tu es pris avec une dette d'il y a 10 ans encore. Tu es pris jusque-là. Tu connais ce sentiment peut-être ce matin que je parle, d'être pris ou que tu ne sens pas que tu as la liberté de choisir parce que tu es pris dans des dettes. Ça affecte ta liberté de décision. Ça affecte ton stress, tes nuits. Le Seigneur, vous savez, a tellement de compassion. Ici, il n'explique pas quelle sorte et pourquoi cet endettement-là. D'où elle vient? Dans un pays agriculture, on imagine les problèmes des fois d'une saison à l'autre, différents problèmes. On peut imaginer aussi, tout comme partout ailleurs, des gens qui ont pris des décisions de dettes de jeu, des dettes de toutes sortes. Des fois même de mettre ta famille en dette et que là, tu dois te placer toute la famille comme serviteur d'un voisin pour payer ta dette. C'était des choses qui pouvaient arriver. Et le Seigneur, dans sa bonté, prévoyant que c'était inacceptable, prévoit un système qui empêchait l'écrasement économique d'un individu, d'une famille à long terme. Le Seigneur prévoit dans la loi un mécanisme pour libérer celui qui est accablé de dettes, indépendamment de si ces dettes ont été prises pour des raisons de malheur ou pour du plaisir immédiat, de mal planifié. De ne pas avoir épargné quand c'était le temps, et là, d'être au dépourvu devant des situations. Sans aucun égard au mérite, ici, il y a un mécanisme que Dieu prévoit d'avance pour libérer de l'endettement et que tu ne sois pas pris sous le joug toute ta vie. C'est pas extraordinaire, ça? Et c'est un choix. Il y a une décision ici, librement faite, de la part de celui qui exerce ce droit. Et j'aimerais que vous remarquiez ici 5 mots-clés, OK? Si vous prenez des notes, voici 5 mots-clés avant de regarder notre plan. Mais les 5 mots-clés pour aider à apprécier ici le texte. Premièrement, on parle de ton frère 7 fois. On parle de ton frère, donc ton frère, ta sœur. On parle de la famille. On parle de cette relation spéciale de la communauté de Dieu. Et une des motifs principaux qui remplit tout l'espace du texte ici, là, c'est ton frère, parce que c'est ton frère, parce que c'est ta sœur, parce que ça fait partie de ta famille, ça fait partie de ton peuple. Deuxièmement, il parle de bénédiction 5 fois. La bénédiction de Dieu. Il y a un lien ici entre la bénédiction de Dieu puis aussi d'obéir celui qui bénit. Il parle de remise 6 fois, de remise de dette. Il parle d'indigent 6 fois, donc une personne qui est dans le besoin, sans définir si son besoin il est légitime ou pas. Parce qu'évidemment, nous, on regarde de haut. Oh, oui, mais regarde, il a choisi, c'est son problème, là. Il a décidé de prendre la drogue. Nous, on regarde de même. Ah, il a décidé là, de prendre tel type d'emploi. Ou elle, puis lui, ont décidé là, de se payer ici, puis ça, puis là, ils sont pognés à la gorge. C'est de sa faute. Nous, on a ce regard-là facile, humain, qui regarde, qui accuse, qui voit un poids de responsabilité. Puis on regarde de haut. Je sais qu'on n'oserait pas le dire, mais je vais vous le dire, c'est ça qu'on fait. C'est ça qu'on fait. Je le sais, parce que moi aussi, je suis capable de faire ça régulièrement et facilement. Je suis un pécheur comme ça. Puis on regarde, là, on juge. Seigneur, dans sa bonté, prévoit un mécanisme. Et le mot « main », 6 fois. La main, qu'est-ce que tu fais avec la main? La main qui a le pouvoir de retenir ou de donner. La main, ouverte ou fermée, qu'on parle dans le texte. Gardez ces 5 mots-là qui vous aident à comprendre le message et avoir une image ici. Dieu n'est pas un Dieu qui écrase éternellement, mais il aime, il restaure, il pardonne, il relève. Et à preuve, Christ, on l'a chanté, est venu payer notre dette morale. Et ici, le texte nous rappelle que, dans le fond, toute cette fabrication de notre salut, toute cette réflexion sur libérer l'être humain de sa dette, ça vient du Dieu qui a fait la loi dans le livre de Pentateuch. Et toutes ces idées de comment qu'elle est amenée, ce soulagement de notre dette morale, on le voit toutes sortes de signes dans la loi de Dieu, de sa réflexion qui construit ce salut. C'est le même Dieu, le Dieu qui fait la loi dans le Pentateuque, que le Dieu qui a envoyé Jésus-Christ, le Père céleste, pour mourir pour nos péchés. Le même qui a ce grand cœur prévoyant, paternel, généreux. Et on voit ici, comme dans le texte, il prévoyait, il dit dans le peuple, on devrait faire attention à nos pauvres. Nous, on ne devrait pas avoir de pauvres. Si on suit la loi, il ne devrait pas y avoir de pauvres parmi nous. Mais plus tard, on voit, il y en aura. Parce qu'évidemment, le Seigneur sait très bien qu'est-ce qui va arriver. Il y en aura. Mais voici les mécanismes. Il dit, tu n'auras pas de dette non plus envers tes voisins. Parce qu'Israël, si elle pratique la loi de Dieu, devrait être sans dette et jamais s'endetter face aux pays voisins. Et que là, ça influence. Aujourd'hui, partout dans le monde, le système de dette contrôle des gens. Des pays complets, vous savez, sont contrôlés dans leur politique, liés à l'endettement, par exemple, à la Chine. La Chine joue beaucoup à ça. L'endettement dans des pays de l'Afrique, l'endettement dans des pays, ils font des ponts, etc. Puis là, finalement, il y a des problèmes économiques. Et là, le pays en Amérique du Sud aussi. Et là, ils ont des ingérences par les dettes nationales qu'ils apportent à des pays vulnérables. Et peut-être vous entendez parler de ça. Des nations complètes. Dans les dernières années, j'ai lu un peu plus sur Haïti, ayant moi-même des enfants haïtiens. Mon épouse a été en Haïti. La dette haïtienne, peut-être, évidemment, je ne vous ferai pas la leçon, les Haïtiens connaissaient beaucoup mieux l'histoire que moi, mais il y a 200 ans, cette fameuse dette haïtienne qui a écrasé pendant plus de 120 ans le peuple haïtien d'une dette que la France leur a imposée par la bouche de canons, de multitudes de navires venus et intimider l'île. Et on a accepté une dette. Et cette dette-là a pourri la vie, limité le développement économique. Et tout un peuple complet a souffert. Ce n'est pas une histoire qui est si loin. Ça s'est réglé en début du siècle. Une dette même transportée dans un autre pays, les États-Unis. Et un peuple complet en a souffert, l'endettement. Et ça affecte des générations. Et le Seigneur a mis un moyen. Il a mis un moyen pour que les Juifs ne vivent pas ça, ceux qui suivent, que le peuple de l'Éternel, dont l'Éternel est le Dieu, le Père, il y a un Père bienveillant qui prévoit un moyen de libération dès la loi de Moïse. Il y a 3400 ans, déjà, le mécanisme de libération existait, qui témoigne d'un Dieu gracieux, d'un Dieu bon, d'un Père céleste généreux, et qui enseigne à son peuple à le pratiquer, mais ça émane d'un cœur de père. Et c'est ce que je veux que vous voyez ici. Cette idée est tellement partout dans le texte. Des amis, dans la dernière année, ont été libérés d'une dette de plus de 100 000 $ par un organisme chrétien. Comme ça. Et ça n'a rien altéré à leur relation avec l'organisme. J'ai trouvé ça tellement beau, cette pratique dans la communauté des croyants, de libérer d'une dette qui accablait une famille, qui l'écrasaient et qu'ils savaient être déraisonnables et qui ont libéré tout simplement. Je vous lis un court paragraphe ici que j'ai écrit et je vous rappelle les paroles de Jésus dans le Nouveau Testament. La loi, vous savez, invite à remettre aux 7 ans les dettes. Ce qui est important ici, c'est qu'elle révèle de ce qu'on apprend de Dieu dans la loi. Il est sensible et aime donner l'opportunité à l'humain de recommencer à zéro. Même après une mauvais départ ou une succession de mauvaises décisions, des malheurs ou tout simplement des choses qui ne sont pas arrivées, mais que ce ne soit pas une finalité. N'est-ce pas le Dieu, le Père céleste qui a envoyé Jésus et qui dit dans Matthieu chapitre 6, Jésus dit ceci, la prière de notre Père. Là, je vous le rappelle ici, ces paroles, et là, ils vont prendre encore plus de sens. Notre Père remet nos dettes. Vous savez, quand on lit « pardonne-nous », c'est le mot que les Grecs anciens ont traduit de l'hébreu de l'Ancien Testament, « remet notre dette ». C'est littéralement la meilleure manière de lire la prière de notre Père. « Remets-nous notre dette ». Comme nous aussi, nous remettons à nos débiteurs. Oh! OK! Remets-nous notre dette comme nous aussi on remet à des personnes qui ont des dettes envers moi. C'est ce que le texte nous dit, vous savez. Cela est possible car Jésus a offert dans la Nouvelle Alliance, par son sang, on nous dit, Jésus a dit, il a offert la rémission des péchés. Quand Jésus prend le repas du Seigneur dans Matthieu 26, il dit au verset 28, la Nouvelle Alliance par mon sang pour la rémission des péchés. Toute cette idée-là ici émane du texte de la loi, de cette idée d'être relâché de ma dette. Est-ce que ce matin, tu as vécu le relâchement de ta dette envers Dieu, de tes péchés? La dette de ta culpabilité, de te savoir blanchi. Est-ce que tu as vécu cette incroyable bénédiction, ce sentiment de gratitude, de te savoir libre et que là, tu peux décider librement, plus par obligation, plus par esclavage, plus parce que tu es pris dans une famille, des mécanismes ou des manières de faire, mais que tu peux décider parce que tu es libre si tu veux suivre Jésus ou pas, qui t'offre le pardon des péchés, la rémission de ta dette. Est-ce que tu as vécu ça? Vous savez, j'ai l'impression des fois que on ne réalise pas pleinement ce que ça veut dire d'être libéré de ma dette envers Dieu. C'est-à-dire notre péché nous condamne plus qu'à une dette avec des gros intérêts. Hein? On parle de prêt à usure. Et des fois, dans vos traductions, il va y avoir prêt à usure. Hein? Mais ce n'est pas vraiment l'idée du texte. Parce que ça vient de notre idée d'un mauvais prêt de quelqu'un qui emprunte et qui, là, il est mauvais créancier ou un achat douteuse ou il y a déjà des antécédents. Et là, tu as des prêts à 20%. Et peut-être certains sont pris comme ça ici ce matin, avec des prêts exagérés à 20% qui peuvent te tenir tellement d'années que tu repayes juste par les intérêts 3-4 fois ce que tu aurais dû payer au départ sur un nombre surprenant de quelques années, abusivement, parce qu'il y a des gens vulnérables. Mais ici, il parle d'une dette tout simplement et cette possibilité que peu importe ta dette ou comment loin que tu es rendu dans tes intérêts, que Dieu peut te libérer de ta dette envers lui. Si tu as une dette, vous savez, la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que le jour où tu meurs, ta dette va partir. Bon, il ne faut pas partir trop de bonheur pour s'en débarrasser, là. C'est pas ça que je t'aurais dit ce matin, OK? Et il y en a qui ont fait ça. Accablés par les dettes, ça les a poussés même jusqu'au suicide, dans le découragement. Et peut-être que vous connaissez quelqu'un comme ça. J'en ai entendu. Parce qu'une fois mort, tu n'as plus de dette. Oui, mais es-tu prête de l'autre côté? As-tu réglé ta dette éternelle dans ta relation avec Dieu? Mourir avec une dette ici-bas, c'est une chose, mais si tu meurs et tu en as un autre au ciel, puis tu n'as pas d'avocat qui répare ta dette éternelle devant Dieu de péché, tu n'es pas plus avancé, tu es pire. Et Seigneur Jésus a vu bon de trouver un système, le Père Céleste a trouvé bon, un système sur terre pour te libérer, et un système céleste pour te libérer de la dette qui est la plus importante, celle de tes péchés envers Dieu, pour que tu n'aies pas de problème non plus après la mort et que tu ne sois pas dans l'endroit où ceux que leur dette est impayable sont dans l'étang de feu éternel et ceux dont la dette impayable a été payée par Jésus sont avec lui pour l'éternité. Amen? C'est incroyable. Mais est-ce qu'on en prend conscience ou est-ce que je prends tout ça pour acquis? Tellement habitué d'en entendre parler, tellement habitué de le lire que j'en ai perdu la reconnaissance profonde Et c'est ce que le texte ce matin nous ramène. Alors, 4 points ce matin, on a déjà fini le premier, que j'aimerais que vous notiez. Donc, les lois dans le Deutéronome manifestent les qualités de Dieu et nous enseignent sur son esprit généreux. Le Deutéronome nous invite à pratiquer et cultiver ce même caractère. C'est le caractère de Dieu qui est révélé dans la loi. C'est de là que vient notre salut qui est manifesté pleinement en Jésus-Christ. Jésus-Christ est l'accomplissement de cette loi, littéralement. Alors, premièrement, la générosité de Dieu qui transforme notre cœur ce matin, c'est notre titre. Et la première chose, c'est la rémission des dettes. Dieu pardonne sans mérite et donne un nouveau départ. Est-ce que tu as vécu ce matin ce nouveau départ, cette liberté, ces épaules dégagées tout à coup qui ne portent plus 100 livres sur le dos tout le temps, écrasées par le poids de la culpabilité? C'est ce qui est offert. Deuxièmement, la générosité envers ton frère pauvre, Dieu regarde ton cœur. Et là, ici, il montre que moi, je ne suis pas intéressé juste à ce que tu fasses le comportement. Ce que je suis intéressé, c'est dans l'obéissance de la loi, il montre déjà ici, ce n'est pas juste la conformité intérieure que Dieu est intéressé. Il est intéressé au cœur du serviteur de l'Éternel. Il est intéressé au cœur de celui qui met en pratique la loi. Donc, il est en train de dire que si tu pratiques la loi, mais à l'intérieur, tu chiales, tu bougonnes, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris le cœur de Dieu qui t'amène dans une situation tellement débordante, qui t'amène à pouvoir être généreux, débordant de reconnaissance pour pouvoir le pratiquer envers quelqu'un d'autre. Tu le fais par obligation. Il dit, si ton cœur n'est pas là, tu le regardes avec mépris. Ou même tu calcules. Tu vas dire, oh, on est rendu à 5e année. Je vais le voir, là, le beau-frère qui s'en vient avec la dette. Là, hein? Puis là, il va me demander de prendre une dette. Puis là, moi, je vais être obligé dans 1 an et demi de le libérer. Ah, le beau-frère, hein? Puis là, il voit y venir, puis là, il dit, si dans ton cœur, tu commences à calculer comme ça, c'est ça qu'il est en train de dire ici, là. Tu calcules en fonction de la date de la fin des prochains 6 ans, puis que là, la 7e année, tu vas devoir laisser ta dette. Puis là, il vient te chercher la dette dans les derniers moments, là. Puis là, tu le sais que tu n'auras pas le temps. Est-ce qu'il repaye comme il faut la dette que tu es obligé de relâcher selon la pratique de la loi? Puis là, tu calcules dans ton cœur, puis tu dis, ah, désolé le beau-frère, je pourrais pas. C'est de ça qu'il parle ici. Là, j'utilise un beau-frère, j'ai des bons beaux-frères, j'ai pas de problème de beau-frère, faites-vous-en pas, là. C'est pas ça l'enjeu pantoute, là. Ça pourrait être une belle-sœur, ça pourrait être un voisin. Mais vous comprenez l'idée que je suis en train de faire, de calculer. Nous, on est comme ça, on calcule notre générosité. Hein? Puis là, on prête des intentions. Puis peut-être vous avez raison de prêter des intentions parce que vous le savez que c'est vrai, ou que vous l'avez déjà vécu, ou que vous avez déjà pensé comme ça aussi. On connaît le cœur humain, n'est-ce pas? Puis là, il dit, malheur à toi si tu commences à calculer dans ta tête, puis là, tu fermes ta main, tu fermes les yeux à celui qui est indigent parce que tu calcules, puis tu dis, je pourrais pas t'aider. Puis l'autre, il est pas fou, là, il est capable de calculer, puis il réalise que là, il est pogné là, mais c'est pas un bon temps, là, parce que l'année de sabbatique qui s'en vient, c'est dans pas long, puis qui va vouloir me prêter? Je suis dans le malheur, puis il y a quelqu'un qui va voir, puis qui va ouvrir son cœur, puis ouvrir sa main, où le cœur va rester fermé, et il va cultiver dans le cœur, puis remarquez le mot cœur ici, qui répète au moins trois fois dans ces versets-là, il parle de tes raisonnements dans ta tête, ton calcul mental, et là, il y a plus de cœur généreux, il y a un cœur calculateur. Puis là, quand tu tombes dans le cœur calculateur, qu'est-ce que tu penses? Mes bienfaits, ma sécurité, ma protection, c'est-tu avantageux pour moi? N'est-ce pas, hein? C'est quoi le risque pour moi? Et là, le plus que je suis en train de penser à moi, moins que je suis libre d'aimer, parce que le moi prend tellement de place. Mais pourquoi je pense à moi? La raison pourquoi je calcule, c'est parce que je suis pas en train de regarder vers celui qui, lui, sans calculer, a payé le prix cher pour mon âme. Il a payé le prix le plus cher. Le Dieu de la loi qui parle cette loi-là va envoyer son Fils, sans aucune raison, le plus précieux pour vivre la plus grande des souffrances. Et là, je ne calcule pas en fonction de ce que Christ a fait pour moi et comment il a été au-delà des calculs humains. C'est déraisonnable que Christ, ce que le Père Céleste a fait par son Fils pour nous racheter. C'est complètement déraisonnable, humainement parlant, en termes de calcul. Ça n'a pas de bon sens. Quel amour, quelle grâce incomparable. Il n'y a rien qui s'y compare. Mais nous, quand on tombe dans le calcul, on oublie. On n'est pas en train de calculer quelle était ma dette avant, quel a été le prix payé. Puis parce que je suis tellement ébahi de tout ça, je peux ouvrir mon cœur. Mais quand je ferme les yeux et j'oublie qu'est-ce qui a été payé pour ma dette, je regarde ce que ça serait de libérer la dette de l'autre et tout à coup, ça me coûte très cher. Et là, je n'arrive pas à imaginer de relâcher. Je tiens. Je tiens à ma protection. Je tiens à ma sécurité. Ben là, j'ai des bonnes raisons, Joël. J'ai travaillé tellement fort pour ce fonds de pension-là. J'ai économisé, moi, ma maison. Là, je me suis privé des voyages pour payer ma maison plus rapidement. Puis l'autre à côté, lui, il se payait des beaux voyages chaque année, mais sa maison n'a jamais été payée. C'est de sa faute, là. Il avait bien prévu son affaire. Lui, là, tu sais, moi, j'ai calculé mon affaire, puis il a mal calculé, c'était le plaisir immédiat. Mais oui, j'ai sacrifié, puis c'est ça. Celui qui a le plaisir immédiat, bien, il se retourne vers celui qui calcule puis qui économise pour profiter de lui. Je sais que personne d'entre vous pense comme ça, là. Moi, ça m'arrive des fois. C'est comme ça qu'on pense. Là, dans la salle, je ne vous diviserai pas en groupe, là. Hein? On ne va pas se diviser, ceux-là de ce côté-ci. Quoi, puis je ne vous ferai pas lever la main. Mais je suis certain qu'on peut se diviser assez facilement. C'est qui les plus dépensiers qui sont plus vers le plaisir immédiat, là? Puis qu'on l'a reporté. Puis qui sont ceux qui se privent dans le immédiat pour payer plus rapidement, puis part de dette, puis part d'intérêt à payer, puis tout ça, puis qui se privent, puis éventuellement. Puis on se dit que sûrement que je suis dans le bon côté. Puis l'autre, il se dit sûrement, non, ben peut-être que je vais mourir à 60 ans, qu'est-ce que ça me donne de me priver pour venir, il faut vivre sur le moment présent. C'est moi qui ai pris le bon côté. Je suis certain qu'on peut diviser la salle au couteau, avec un grand malaise. Comme ça. Vous me suivez? Est-ce qu'il y a un groupe qui est meilleur que l'autre? Hein? Alors, Jérémy pense que oui. Mais je n'irai pas plus loin que ça pour ne pas gêner Jérémy, mais Jérémy a répondu, j'aime ça, quelqu'un qui ose répondre. Hein? On pense que oui, mon côté est certainement meilleur que l'autre. J'aimerais vous dire ceci. La parole de Dieu me dit que si Dieu n'est pas la priorité, je fais fausse route des deux côtés. Si Dieu n'est pas la seule source de ma sécurité et que je m'amuse dans l'irresponsabilité ou que j'abuse à économiser pour ma sécurité, je pêche dans les deux camps contre l'Éternel, si l'Éternel n'est pas celui qui est ma seule sécurité ce matin. C'est ça la vérité de la parole de Dieu et de l'Évangile. Si tu es en paix parce que tu regardes ton fonds de pension, tes yeux n'est pas à bonne place. C'est pas ça notre sécurité comme chrétien. Notre sécurité, c'est notre placement éternel. Quoi qu'il y a de là, ton REER, ton CELI céleste. C'est peut-être plus ça qu'on devrait regarder. Ils sont où mes papiers par la poste pour mon CELI céleste? Hein? On reçoit nos CELI et nos REER par la poste, les résultats aux trois mois. Là, hein? Il est où mon placement CELI céleste? Mon REER éternel. Lui, à quoi il y a de l'air? C'est plutôt ça qui devrait me préoccuper. Mon ami, si tu es en train de dépenser de l'argent irresponsablement pour le plaisir immédiat, et c'est ça ton plaisir est un péché devant l'Éternel. C'est irresponsable. Et si tu es en train d'accumuler à l'excès, puis que ta sécurité, c'est que tu te vautres dans l'accumulation de tes greniers, puis, j'ai pas à m'en faire, je peux prendre ma petite bière tranquille, mon grenier est bien gorgé, c'est correct pour les prochaines années, ma maison est payée, je suis bien, j'ai mérité tout cela. Tu pêches contre l'Éternel. Ta foi est à la mauvaise endroit, tu places dans ton orgueil, dans tes capacités. Et l'autre côté, ben, c'est le plaisir immédiat, j'ai pas de garantie pour l'avenir, je vais profiter de maintenant, qu'est-ce que ça donne de me priver pour l'avenir? Puis là, je me vaute dans le plaisir immédiat. Et j'espère que quand ça va mal aller, j'aurai un beau-frère, une belle-sœur qui est de l'autre côté. On est content que le beau-frère et la belle-sœur de l'autre côté, ou le voisin, ou vous comprenez ce que je veux dire. D'en avoir un l'autre côté de la ligne pour quand ça va mal aller, n'est-ce pas? Puis là, tu ne veux pas te faire regarder de haut. Puis l'autre côté, bien là, tu regardes l'autre de haut aussi. Hein? Là, les deux côtés se regardent. Puis, vous savez, le Seigneur nous invite à évaluer ce matin. Est où ma sécurité? Es-tu dans mes moyens, dans mes calculs, dans mon intelligence, ma capacité de, ou dans mon plaisir immédiat? Où est ma sécurité ce matin? Es-tu dans le Dieu créateur qui me donne le souffle de vie, qui peut m'en enlever demain matin? Ou est-ce qu'elle est dans mes capacités de me donner une sécurité? Peut-être ce matin, si on devait être dans les souliers de cet homme, ce jeune homme riche, puis que le Seigneur nous demandait ce matin à tous et chacun ici, parce qu'on est riche en Amérique du Nord, va et donne tout ce que tu as, viens, suis-moi. Ton fonds de pension, ta maison, tes accumulations, ton beau char, va tout donner ça, puis suis-moi. Est-ce que tu le ferais ce matin? Est-ce que je le ferais? De tout donner, ce que j'ai accumulé, ce qui me donne la sécurité, puis dire, viens, suis-moi. Va tout donner ça. On a compris par cette histoire-là que dans l'histoire du riche, son cœur, finalement, il y avait un commandement qui échappait dans tout ça. Hein? L'Éternel Dieu n'était pas le premier pour lui. Il n'avait pas la place numéro. Est-ce que tu aimes l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée? Et là, son argent était un gros obstacle. J'ose prétendre que pour nous aussi, mes chers amis, en Amérique du Nord, mon portefeuille est aussi un gros obstacle à suivre l'Éternel. On est bien dans notre confort, dans notre capacité de se payer, notre capacité d'endettement pour des projets spéciaux, pour si on a toujours quelque chose de plus à dépenser. Mais qu'est-ce qui arrive de l'autre? Qu'est-ce qui arrive de nos frères et sœurs à travers le monde entier? Ou celui qui n'est pas si loin de chez nous, qui passe par un bout dur, puis qui aurait besoin d'un allègement? Peut-être si j'avais un 3-4 000 à lui donner pour le libérer, puis il repart à zéro pour sa carte de crédit. Ouais, mais Joël, si je l'aide pour sa carte de crédit, il n'apprendra pas la leçon, puis il va recommencer encore. C'est vrai. Vous savez quoi? C'est vrai. C'est ça qui est le pire, c'est que c'est vrai. Je l'ai vu. On fait ça, l'être humain. Quelqu'un paye notre dette, on en perd la valeur, on ne voit pas l'emploi, puis on recommence le même comportement. C'est fou, hein? On se remet sur la dette si on n'a pas saisi l'ampleur de ma détresse et l'ampleur de la grâce qui m'est venue. Mais j'ai toujours un choix. Une fois que j'ai reçu cette grâce-là, peut-être je peux l'abuser, la piétiner, ou peut-être je peux passer le reste de ma vie à me consacrer à celui qui a payé ma dette. Combien de lépreux avaient rencontré Jésus? Combien sont revenus pour dire merci? C'est fou, hein? Ils ont tous été libérés. Un seul a dit merci. Ça fait réfléchir, hein? Il est si facile pour nous de recevoir de la grâce sans mérite, et pourtant, je ne céderai pas ma vie. Je ne céderai pas ma vie. Quelle réflexion profonde que la loi de Dieu me donne ici à réfléchir sur les enjeux du cœur. Écoutez bien, il y a tellement de choses à dire, mais je ne dirai pas tout. Le paradoxe de la générosité. Le proverbe dit ceci, « Tel qui donne librement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. » On s'entend-tu que l'Évangile, le message de la parole de Dieu, va tout le contraire de notre logique humaine? Celui qui est généreux, qui est dirigé par l'Esprit de Dieu, parce qu'il y a un débordement de reconnaissance, pas parce qu'il est obligé, parce que Dieu a pris ma dette, je suis tellement reconnaissant que, hey, écoute, il y a quelqu'un, je vais l'aider, peut-être qu'il va profiter de moi. Le Seigneur est en train de dire de fermer nos yeux au profiteur et à l'abuseur, c'est pas ça qu'il est en train de dire. Au beau-frère, que ça fait 5 fois qu'il me le demande, puis à chaque fois, il fait la même affaire, des fois, il faut le laisser partir aussi. C'est pas ça qu'il est en train de dire d'être naïf puis d'être stupide avec notre argent. C'est pas de ça qu'on parle. D'avoir un cœur ouvert à la détresse de celui qui est en besoin. Puis il dit, il y a quelque chose qui est contraire, que quand tu es plus généreux, tu as plus. Puis que quand tu épargnes plus, tu as moins. Il y a quelque chose ici. Et il ne faut pour rien que l'Ecclésiaste va écrire à ce sujet-là dans l'Ecclésiaste, la folie de travailler si fort à économiser, puis que là, finalement, un autre en profite de tout ce travail-là. C'est une folie. C'est fou. C'est de la folie de vivre comme ça, d'économiser, puis quelqu'un d'autre profite parce que c'est un cadeau de Dieu. C'est un cadeau de Dieu de profiter de ce qu'il m'a confié et de pouvoir en jouir avec ma famille, avec les gens, de partager et de voir les autres en profiter et d'avoir ce plaisir-là, pas immédiat d'irresponsabilité, mais ce plaisir immédiat de la générosité. De prendre soin du besoin qui est là, sans tout calculer. Est-ce que c'est raisonnable? Pourquoi? Je peux seulement le faire. Écoutez-moi bien, là. Je peux seulement être généreux sur le coup, là, si je suis sécurisé parce que j'ai un Créateur généreux qui s'occupe de moi. Et que ça, c'est suffisant pour ma sécurité. Si c'est mon cœur calculateur qui est ma sécurité, je dois tout calculer ma générosité pour être sûr que c'est raisonnable. Mais si Dieu est ma sécurité, là, je peux tout à coup m'occuper. Et ça fait tout le monde de différence. Tout le monde de différence. Libérer le serviteur avec abondance. Regardez bien ici, encore ici, Dieu vient nous brasser, là, et qui vient nous brasser. Si l'un de tes frères, écoutez bien ça, hébreu, homme ou femme, se vend à toi, il te servira 6 ans, mais la 7e année, tu le renverras de chez toi. Lorsque tu le renverras libre de chez toi, tu ne le renverras point à vide, donc les mains vides. Tu lui feras des présents de ton menu bétail, de ton air, de ton pressoir, de ce que tu auras par la bénédiction de Dieu. Est-ce que tu réalises que tout ce que tu as ce matin, tout ce que tu as là, c'est pas à cause que tu es intelligent là, c'est la bénédiction de Dieu sans mérite que tu as bénéficié. Une belle éducation qui a favorisé que tu aies des études ou un métier que tu as voulu. La grâce de Dieu qui a permis d'avoir une application à un métier puis ou tel travail qui t'ont formé. D'être dans une shop qui avait un beau système de pension, que tu n'as pas eu de problème de santé toute ta vie, que tu as pu travailler stablement, ou toi, ou un membre de ta famille qui t'empêcherait de travailler, puis que tu as pu bénéficier de cette stabilité-là de santé pour travailler, d'épargner. Tout ça, là, c'est pas parce que tu es brillant, tu es beau plus que les autres, plus capable, là. C'est la grâce de Dieu, c'est une bénédiction de Dieu, sans mérite, tu ne le mérites pas. Arrête de cultiver dans ton cœur que j'ai travaillé fort, je l'ai mérité, j'ai fait tel sacrifice. Là, tu mets ta confiance dans ta sécurité, de ton intelligence, de tes capacités. Et ça, c'est notre arrogance nord-américaine. Tout n'est que bénédiction. Bénédiction, un débordement de la grâce de Dieu sur toi. Et dit, tu auras par la bénédiction de l'Éternel, ton Dieu. Si tu vois que ça vient de Dieu, ça va changer ton attitude envers l'autre. Il dit, tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'a racheté et c'est pourquoi tu donneras aujourd'hui, je te donne aujourd'hui ce commandement, parce que tu es bénéficiaire. Donc, libérer le serviteur avec abondance, Dieu ne libère pas les mains vides. Et quand il t'a sauvé, quand tu as accepté le Seigneur Jésus, quand un jour tu es tombé à genoux en réalisant la perte, Dieu t'a donné le magot le plus gros qui pouvait exister, qu'un humain pouvait recevoir, d'être adopté par le Père Céleste, par le Créateur de l'univers, alors que tu étais un pécheur perdu. Tu es devenu un héritier, un jeune homme, une jeune femme, un homme âgé, une femme âgée, tout à coup adopté et devenu héritier, héritière du Créateur de l'univers. Tu as compris le sens de ta vie alors que tu ne savais pas où ce que tu allais. Tout à coup, tu n'avais pas de famille, tu as maintenant une famille. Merci Seigneur. Tu n'avais pas connu l'amour, puis tout à coup, même si tu es dans une communauté avec un paquet de pécheurs qui travaillent ensemble, tu connais l'amour. Dieu, il est généreux. Il n'envoie pas à vide après avoir libéré. Il est généreux. Et là, il ramène. Il dit, quand vous avez parti d'Égypte, qu'est-ce qui est arrivé? Vous avez déculotté les Égyptiens qui vous ont donné plein d'affaires. Là, partez avec tout ça, là, partez. C'est un peuple-là, il nous donne tellement de malheur. Là, partez avec la vaisselle en argent, en or. Pas grave, mais on ne veut plus les plaies d'Égypte. Là. Et le Seigneur a permis qu'ils partent les mains pleines. Il dit, vous avez parti de même. Il dit, quand vous allez libérer quelqu'un, assure-toi qu'il part avec les mains pleines, dans le nom de Jésus. Amen. Assure-toi qu'il part les mains pleines. Pas les petites poches remplies à peine, une petite bosse, là. Non, les mains pleines, les bras pleins. Quand tu libères de dettes, fais pas juste le minimum. Sois généreux. Pourquoi? Parce que Dieu était généreux envers toi. Vous imaginez pour les Juifs, là, le visuel ici, là, frappant de la bonté de Dieu et qu'il a dit, si tu as été déversé sur toi, la bénédiction de Dieu, elle est supposée de passer à ceux autour de toi. Elle n'est jamais juste pour toi, la bénédiction de Dieu. Elle est toujours pour déborder de toi vers d'autres personnes. Si tu gardes la bénédiction de Dieu, tu n'as pas compris où tu pèches contre l'Éternel. Dieu ne te bénit pas pour que tu gardes pour toi. Il veut que tu bénisses d'autres. C'est ça l'Évangile. Et c'est comme ça que depuis 2000 ans, des gens bénis ont entendu la parole de Dieu au prix de leur vie, ont transmis à d'autres, ont été bénis et ils ont béni d'autres personnes et que d'autres personnes, et ça s'est rendu jusqu'à nous ici au Québec pour entendre l'Évangile. De bénédiction en bénédiction de l'Éternel généreux envers nous pour qu'on vienne à être un peuple à Trois-Rivières qui connaisse l'Éternel, qui connaît le Fils de Dieu et pour lequel Jésus est notre Seigneur, notre Sauveur, notre Maître. Dernière. Le serviteur qui reste par amour. La grâce divine produit une consécration volontaire. Regardez bien maintenant ici. Ça, c'est fou, là. Si ton esclave te dit, je ne veux pas sortir de chez toi. Il est bizarre, là. Il y a peut-être de la santé mentale. On allait le voir un psy, là. Un serviteur qui ne veut pas sortir de sous celui qui est son maître. Ça n'a pas de bon sens. Et là, il nous donne la raison pour être sûr que ce n'est pas de la santé mentale ici. Là. Il dit, c'est quoi? Pourquoi? Parce qu'il l'aime. Parce qu'il l'aime. Parce qu'il t'aime, toi et ta maison, et qu'il se trouve bien chez toi. Alors, tu prendras un poinçon et tu lui perceras l'oreille. Pas sûr qu'on se fait percer les oreilles aujourd'hui pour des mêmes raisons, là, hein? Contre la porte. Ouais, pas sûr que c'est contre la porte non plus, là. Hein? Et tu seras pour toujours ton esclave. Tu feras de même pour ta servante. OK, fait que c'est pas juste pour les gars, c'est pour les filles aussi. Ils ont la même possibilité, hommes et femmes égales ici, de libération possible. Il aurait pu y avoir une confusion dans le texte d'Exode. Il ajoute ici quelques informations complémentaires. Hommes et femmes pouvaient être libérés comme ça. Ou bien, une fois libérés, dire, ben non, je veux rester parce que mon maître, c'est un super maître. Ce foyer, je les aime. Exode mentionne que peut-être tu as eu des enfants pendant la servitude et tu ne veux pas les laisser derrière parce qu'il y a une complexité dans tout ça aussi qui peut être un facteur. Il dit, tu ne trouveras point dur de le renvoyer libre de chez toi. Car il a servi 6 ans et ce qui vaut le double du salaire d'un mercenaire et l'Éternel ton Dieu te bénira dans ce que tu feras. Il dit, regarde ce que tu as reçu. Tu as été béni, renvoie, c'est le mot final, renvoie, garde pas, remets la dette. Et là ici, cette notion fou de tout à coup avoir la liberté quand tu as été tellement reconnaissant du maître que tu as eu, qui te libère de dire non, c'est correct, je veux rester ton serviteur. La possibilité d'aimer ton maître et de vouloir le suivre pour le reste de ta vie, considérant que c'est un bon maître qui t'a libéré de ta dette, puis là, maintenant, tu ne le fais plus par dette, tu le fais par choix volontaire. C'était prévu dans la loi, les amis. C'était prévu dans la loi de Dieu d'avance. Et le peuple de Dieu, c'est qui? C'est les gens qui, après avoir reçu la grâce de Dieu, répondent, « Seigneur, je vais te servir le reste de ma vie parce que tu m'as libéré de ma dette. Puis c'est parce que je t'aime. J'ai vraiment saisi, puis j'apprécie ce que tu as fait. » Ça, c'est le... C'est le lépreux parmi les 10 qui est revenu puis qui a dit merci. C'est pas la majorité. Le Seigneur dit, il y a beaucoup d'appelés. Peu d'élus. Peu de gens qui vont, malgré l'appel, l'offre du pardon, vont l'accepter puis donner leur vie volontairement au maître de l'univers, au Créateur. On est une minorité. Et aux yeux du monde, ce qu'on fait, c'est fou. C'est à contre-courant. Mais tu feras seulement ça si tu réalises comment tu étais perdu et comment tu as été généreusement libéré de ta dette et que donc tu dis, toute ma vie, je veux suivre ce maître qui m'a libéré de ma dette. Je suis certain que toutes les gens qui ont été libérés de cette dette d'études que j'ai parlé au tout début n'avaient aucune gêne de parler de M. Smith. C'est comme ça qu'il s'appelait, M. Smith. 65 ans, 64 ans, M. Smith. Je suis sûr que tous ces gens-là qui ont bénéficié de son cadeau il y a 7 ans, il n'y en a pas un qui est gêné de parler de M. Smith qui a payé sa dette. Je suis certain, pas de gêne. Parce que qui avaient le poids d'un endettement et qui sont maintenant libres. Et quand tu as senti le poids accablant et que tu es vraiment reconnaissant dans ton cœur de la libération, tu es reconnaissant. Tu reconnais d'où ça vient. Tu reconnais à qui de droit la reconnaissance méritée. Ce matin, on pourra dire tellement d'autres petits détails dans tout ça, mais vous comprenez l'idée principale ici, n'est-ce pas? Vous comprenez l'idée principale et la grâce de Dieu qu'on veut apprécier ce matin. Le salut, vous savez, ne produit pas une obéissance forcée, mais une loyauté qui vient de l'amour. Christ, nous ne servons pas Dieu pour gagner son amour, mais parce qu'il nous a aimés le premier. Quelle est notre motivation ce matin dans ce que je fais au niveau de la foi? Est-ce que c'est le devoir, la peur, la réputation, ou c'est l'amour de mon maître pour lequel je suis tellement reconnaissant? La reconnaissance, l'admiration ou le devoir? L'obligation. Ça fait un monde de différence dans ta foi, dans ta marche chrétienne. Mais est-ce que je vois tout ce que lui a fait et que je l'apprécie ce matin pleinement? Deutéronome 15 est bien plus qu'une loi, vous savez. C'est le portrait d'un Dieu qui remet les dettes, qui tend la main, qui libère abondamment et qui gagne des serviteurs par amour et non par contrainte, qui les libère, puis après ça, à eux de voir si par amour ils voudront suivre le maître. Et à la croix, Jésus, par Jésus, Dieu a ouvert la main pour toi et moi, pour que celui qui se repente puisse être libéré et suivre librement Jésus, sans obligation, juste par amour. Est-ce que tu te rappelles de ce jour où tu as pris ta décision? Tu te rappelles-tu de ce moment-là de prise de conscience où tu étais pris, là, détresse, puis qu'après ça, le moment suivant, tu étais libre, tu étais quelqu'un, tu comprenais où ce que tu allais, puis qui tu étais, puis là, toutes tes angoisses étaient enlevées par le pardon de Jésus. Est-ce que tu te rappelles de ce moment-là, là, ce ressenti, cette émotion de reconnaissance que tu as vécu au moment que tu as compris? Puis là, après ça, c'est comme Jésus est extraordinaire. Dieu le Créateur est extraordinaire. Nous ne donnons pas pour ressembler à Jésus. Nous donnons parce que Jésus nous a déjà tout donné, les amis. Par son esprit, il forme en nous un cœur généreux comme le sien. C'est pas parce qu'on est obligé, c'est parce qu'on a reçu son amour, elle nous transforme et produit de l'amour pour l'autre qui n'est pas naturel en dedans de moi. Et tout à coup, elle me fait faire des choses qui ne sont plus basées sur ma sécurité, mais qui sont basés sur le fait que toute ma sécurité est déjà acquise en Jésus. Car vous connaissez la grâce de Dieu, j'ai invité Fabien à s'approcher, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui, pour vous, s'est fait pauvre, de riche qu'il était. Et là, il a fermé trop vite l'écran, je ne pouvais pas finir la fin du verset. J'étais sur une bonne élan, là. Je lisais comme fou sans m'enfarger, là. Sur la dernière image, s'il vous plaît. Merci. Le dernier verset. L'autre diapo. Merci. Juste avant la fin. Celle-là. Faut croire que c'est parce que c'est un verset important. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui, pour vous, s'est fait pauvre. De riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Hey, c'est fou, hein? Dieu, le Créateur, toute la personne de Dieu, délègue le Fils Jésus pour venir sur terre, pour racheter cet homme, cette femme et toute sa descendance qui ont rejeté d'obéir à la loi de Dieu, à une seule loi, qui ont péché. Puis il dit, c'est du péché. Au verset 10, il mentionne le mot péché. Puis il nous a pourchassés en abandonnant sa demeure. Il a pris la pauvreté comme demeure sur terre. Il a été traité comme un commun des mortels qui avait de l'air de rien. Il s'est rendu pauvre aux yeux des humains pour construire à partir de cette pauvreté-là illusoire un salut d'une richesse incomparable, un moyen qu'on soit délivré, qui produirait un changement qui est impossible à faire autrement que par la grâce de Dieu dans mon cœur. C'est ce que Jésus a fait. Il a abandonné toute sa richesse, lui, pour venir nous voir, pour nous sortir de notre pauvreté, pour nous rendre riches. C'est tellement ironique, et ce verset-là a une puissance à celui qui le saisit pour changer notre cœur d'une façon permanente. Et c'est pour ça qu'on cultive le repas du Seigneur, qu'on lit la Bible, qu'on se rappelle, parce qu'on oublie si facilement ce que Jésus a fait si généreusement envers nous. Pour qu'au quotidien, mon cœur, ton cœur, il soit libre. Il soit libre de juste répondre généreusement parce que ton cœur devient le cœur de Christ. Et là, il est libre d'aimer, libre de servir, libre d'être généreux parce que je suis le premier bénéficiaire de sa générosité. Ce matin, j'espère juste vous enivrer, vous faire apprécier, vous faire admirer ce que Dieu a fait. Et comment ça part du Dieu de la loi, qu'on n'est pas trop intéressé à la loi, mais qu'on voit le cœur de ce Dieu-là et que ça se transforme dans un accomplissement dans la personne incarnée de Jésus-Christ. Et que ça produit dans ta vie quelque chose d'extraordinaire si tu le saisis ce matin. Peut-être ce matin, tu as besoin juste de le redigérer, de le ressavourer, de reprendre un galon de la grâce puis de t'inquiéter comme foi à la grâce de Dieu ce matin. Seigneur, on veut te dire merci. Merci de ta générosité. Merci de ta patience envers nous, de continuer à nous pourchasser, de patienter, comme le père du fils prodigue qui attendait sur le perron pour son fils depuis tellement de temps, qui attendait avec amour. Et toi, tu as attendu, mais tu n'as pas juste attendu, tu as envoyé ton fils nous courir après. C'est incroyable. Pour venir nous chercher, nous offrir, dans un moment de lucidité, de pouvoir se repentir de nos péchés et d'être gracié. Wow! Merci, Seigneur, pour ta loi qui nous enseigne sur toi. Merci de l'accomplissement de ta loi en Jésus. Merci pour ceux et celles ce matin qui comprennent ton salut et qui l'ont reçu. On te dit merci. Et merci, Seigneur, ce matin, encore une fois, annoncer à ceux qui n'ont pas pris cette décision, librement, volontairement, comme esclaves, de vivre cette libération puis de dire, mais là, je décide de donner ma vie et de te servir librement, par amour. Peut-être, Seigneur, quelqu'un ce matin n'a jamais pris cette décision et ce matin, tu l'invites à céder le contrôle, la fausse sécurité et dire, ce matin, Seigneur, je veux que tu sois mon maître. Je te demande pardon pour mes péchés. Je veux accueillir ta générosité et reconnaître que je n'ai aucun mérite. Et te dire, prends toute ma vie, Seigneur. Elle était perdue. Alors, tout ce que je peux faire maintenant, de perdition que j'étais, je veux l'utiliser pour toi, parce que tu as été si généreux pour moi. Ah, Seigneur, fais grandir dans notre cœur une reconnaissance jusque dans l'éternité pour ce que tu as fait. Rends nos cœurs, nos mains libres. Aide-nous à ouvrir les mains, Seigneur. Peut-être ma main est fermée ce matin face à quelqu'un, quelque chose. Ah, Seigneur, rends mon cœur, ma main libre de s'ouvrir ce matin, comme toi, tu as ouvert la main par ton Fils Jésus. Que mon cœur déborde de reconnaissance, d'admiration et produit dans mon cœur. Ah, Seigneur, produit dans mon cœur un déversement de ta grâce qui fera ce que tu veux. Que je puisse, Seigneur, cultiver par la grâce de Dieu ce jardin de reconnaissance. On te prie ce matin dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.